durant tout le temps pascal, les évangiles que nous lisons à la liturgie, même en semaine, sont tirés de l'évangile de saint Jean. Car, on peut dire de tout l'évangile de saint Jean, plus encore que des autres évangiles, ceux des quatre synoptiques, qu'il est une méditation, qu'il est une relecture de toute la vie terrestre du Seigneur à la lumière de la résurrection. Et l'évangile aujourd'hui a une importance toute particulière. Ce texte évangélique, il raconte l'apparition à Thomas. En effet, ce texte évangélique évoque la transition qui s'opère après la résurrection du Seigneur entre la manière dont les apôtres connaissaient le Seigneur, dont les apôtres, même après sa résurrection, ont connu sa divinité, ont connu qu'il était à la fois le Messie et le Fils de Dieu, et puis ce qui sera la modalité, la manière dont la foi sera vécue par tous ceux qui, dans les siècles qui suivront, croiront aussi dans le Seigneur. Cet évangile nous invite donc à méditer ce qu'est la foi. Les apôtres ont vu, et nous ne devons croire. Les apôtres ont vu en ce sens que, justement, ceux qui avaient le titre d'apôtre dans l'Église primitive étaient ceux qui avaient été témoins à la fois de la vie terrestre du Seigneur, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, de cette vie du Christ ressuscité encore sur notre terre entre le jour de Pâques et l'Ascension. Bien sûr, cette foi pour les apôtres, dans la mesure où on peut parler de foi, mais c'est aussi une vision du Christ ressuscité. Mais je dois supposer, bien sûr, que leur cœur s'ouvre à cette présence du Christ, au sens qu'avait cette présence du Christ. Mais ils avaient vu le Christ ressuscité, et nous, nous ne l'avons pas vu. Ce qui caractérise la foi, ce qui la définit en quelque sorte, c'est que la foi est justement une adhésion à une vérité, mais que nous n'avons pas vue avec nos yeux de chair, que nous ne pouvons même pas conclure d'un raisonnement. Dans le domaine profane, dans le domaine ce qui n'est pas d'ordre religieux, nous pouvons connaître les choses soit parce que nous les avons vues de nos yeux de chair, soit parce que un raisonnement nous a permis de les connaître, de conclure à leur existence présente ou future. C'est ainsi, par exemple, que les astronomes, par voie de raisonnement, bien sûr basé sur des faits, mais peuvent conclure à la date précise d'une éclipse de soleil ou de lune qui se produira des années plus tard. Donc ils n'ont pas vu, mais qu'ils peuvent conclure de façon certaine par un raisonnement. Et ce n'est pas là la foi. Ceci, c'est ou bien la connaissance sensible, quand on voit les choses, ou bien la connaissance intellectuelle, par raisonnement. Mais ce n'est pas de cette manière que nous connaissons le Christ, que nous connaissons tout le mystère du Christ. En ce qui concerne l'existence de Dieu, j'oserais dire qu'on ne peut même pas vraiment parler de foi, car croire l'existence de Dieu, je dirais, c'est une conclusion immédiate qui ne demande pas un raisonnement. C'est quelque chose qui jaillit dans notre conscience simplement de la vue du monde tel qu'il est, de ce monde créé qui est tellement extraordinaire dans son organisation, dans sa beauté, dans sa perfection. Quand nous voyons une machine très perfectionnée, nous n'avons pas besoin de raisonner pour savoir qu'elle a un fabricant. Si nous voyons une machine perfectionnée, nous n'allons pas imaginer quel est le fruit simplement d'une combinaison du hasard de quelques particules élémentaires qui sont agitées pendant des siècles et qui ont fini par hasard à produire ce résultat. Et bien de même, si notre conscience est droite, si notre jugement n'est pas faussé par des passions humaines, je dirais spontanément, en voyant cette création, son harmonie, sa beauté, nous ne pouvons qu'avoir la certitude immédiate de l'existence de son auteur, son créateur. Nous ne pouvons pas ne pas concevoir la puissante, la toute puissance, et peut-être en raisonnant un peu plus, son caractère spirituel, et puis concevoir que un créateur qui a cette intelligence, qui a toutes ces qualités qui ressortent de la conscience de la création, ne veut pas être bon, ne veut pas être aimant. Oui, tout cela finalement ressort, je dirais, du droit usage de notre conscience, de ce sens immédiat, quasi immédiat des réalités divines, là. Mais en tout ce qui, pour tout ce qui concerne soit ce que Dieu est en lui-même, soit son dessein sur l'homme, son dessein de salut, tout ce qui concerne le mystère du Christ, le sens de sa souffrance, de sa mort, de sa résurrection, tout cela, nous ne pouvons pas le connaître de cette manière. Ce n'est pas quelque chose qui est quasi évident pour nous, car tout cela vient de décisions libres de Dieu, de la part de Dieu. Et tout ce qui vient d'une décision libre de Dieu, eh bien nous pouvons le connaître que si Dieu nous l'a révélé, que si Dieu nous a fait connaître ce qu'il est en lui-même. Trinité, tout ce mystère de Sainte Trinité est hors du pouvoir de notre raison. Et puis tout son dessein, le salut sur l'homme, tout le mystère du Christ, tout cela nous pouvons le connaître que si Dieu nous l'a révélé. La révélation suprême, c'est la manifestation du Christ, justement. Mais cette manifestation du Christ et sa résurrection a eu des témoins. Et c'est par ces témoins que nous la connaissons. La foi est une connaissance sur témoignage. La foi n'est pas une connaissance comme celle, ce type de connaissance dont je parlais tout à l'heure, soit parce que nos sens perçoivent les choses, soit parce que notre raisonnement peut y conclure. Là, en ce qui concerne les choses de Dieu, notre raison est impuissante. Elle ne peut que tâtonner et elle ne peut que souvent aboutir à des conclusions, je dirais, enfantines ou complètement erronées. Mais par contre, si des témoins ont vu le Christ ressuscité et que nous croyons à leurs paroles parce que tout indique que ces témoins étaient fiables, ce n'est pas des gens illusionnés, ce n'est pas des imposteurs, à ce moment-là, nous pouvons avoir une connaissance sûre des faits qu'ils nous rapportent, et donc de la résurrection du Christ, qui est justement l'élément le plus fondamental de notre foi dans ces choses qui ont été décidées par Dieu, qui se sont produites réellement, mais que nous n'avons pas nous-mêmes vues et que nous ne pouvons pas tirer d'un raisonnement quelconque. C'est cela la foi. Seulement, la foi n'est pas que cela. Lorsque déjà Saint-Pierre, lors de l'épisode de Césarée de Philippe, nous a raconté dans le chapitre 16 de Saint-Matthieu, lorsque le Christ demande à ses apôtres « Qui croyez-vous que je suis ?» et Saint-Pierre lui répond qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et le Christ lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce ne sont pas tes sens, ce n'est pas ton raisonnement, ce n'est pas ton intelligence humaine, mais c'est le Père qui te l'a révélé. C'est-à-dire que le Père a illuminé le cœur de Saint-Pierre pour qu'il perçoive cette vérité. Et cela, c'est le second aspect de la foi. La foi est au moins pour nous qui n'avons pas vu le Christ, ni transfiguré, ni ressuscité. Pour nous, la foi, c'est une croyance sur le témoignage des apôtres transmis à travers le temps par le corps épiscopal, par toute la hiérarchie de l'Église, et par toute l'Église, par tous les croyants, par tous les fidèles. Mais la foi est en même temps la réponse et en même temps l'adhésion à un témoignage intérieur qui, au fond du cœur, nous est donné par le Saint-Esprit, qui nous est communiqué par le Père, à partir du Père, du Père céleste, de notre Père céleste. Oui. Et à ce moment-là, il y a dans la foi quelque chose quand même de cette, je dirais, quasi-évidence intérieure dont je parlais tout à l'heure pour ce qui est de l'existence de Dieu. Mais cela nous est donné que par le baptême. Cela nous est donné que par... Ce n'est pas quelque chose qui procède de notre nature, qui vient de notre intelligence simplement laissée à elle-même. Pour que nous ayons la certitude intérieure que ce témoignage des apôtres, que tous les apôtres nous enseignaient à partir de l'enseignement reçu du Christ, que tout cela est vrai, que tout cela est infiniment solide, plus solide que toute certitude humaine, eh bien il faut qu'en plus de ce témoignage extérieur des apôtres, nous ayons cette illumination intérieure venant du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que notre foi repose, on peut dire, sur un double témoignage. Témoignage extérieur des apôtres, transmis par l'Église au cours des siècles, et puis témoignage intérieur venant du Saint-Esprit. Mais c'est pour cela aussi que la foi est quelque chose à la fois d'infiniment solide lorsque nous l'accueillons pleinement, et en même temps quelque chose de fragile, parce que pour que nous percevions ce témoignage intérieur, pour que nous percevions cette espèce d'évidence, cette lumière intérieure qui nous donne la certitude que tout cela est vrai, eh bien il faut que notre cœur soit libre et disponible. Il faut que nous ne soyons pas plongés dans les passions humaines. Il faut que nous ne soyons pas aveuglés par un amour désordonné et de nous-mêmes et de toutes les réalités créées qui peuvent satisfaire notre désir de jouissance, notre désir de domination et de puissance. Il faut que nous ne soyons pas aveuglés par l'orgueil, car à ce moment-là, la voix de ces passions, la voix de cet orgueil qui est en nous sera plus puissant que la voix intérieure et douce de l'Esprit Saint, infiniment persuasive, mais infiniment discrète aussi, comme cette brise ténue que le prophète Élie avait perçue sur le mont Horeb, lors de sa rencontre avec Dieu, qui faisait de lui une sorte de second Moïse, mais ce n'est plus dans le tremblement de terre, ce n'est plus dans le tonnerre et les éclairs de l'orage que Élie avait perçu la présence de Dieu, mais à travers une brise légère. Et cette présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs, qui nous donne cette certitude, cette conviction intérieure de toutes ces réalités invisibles à nos yeux de chair, cette certitude intérieure, cette conviction intérieure est à la fois la source d'une connaissance la plus certaine qui soit, mais en même temps, elle reste dépendante de notre accueil, de notre disponibilité pour l'entendre, de notre pureté de cœur qui nous empêche, qui fait que nous ne soyons pas aveuglés par toutes ces passions qui nous aveuglent. Oui, c'est cela la foi, c'est cela que nous pouvons aujourd'hui demander au Seigneur de renforcer en nous. Comme disaient les apôtres, je crois Seigneur, mais fortifie ma foi, fais que je croie davantage, que cette foi devienne en moi plus lumineuse, plus éclatante. Il est normal que dans les débuts d'une vie chrétienne, cette foi, cette croyance dans tout ce que les apôtres nous transmettent, de tout ce que l'Église nous enseigne, soit encore quelque chose que nous ressentions comme un peu extérieur à nous-mêmes, comme quelque chose auquel nous adhérons, mais qui n'éveille pas encore un écho profond, total en nous. Et le progrès dans notre vie spirituelle, justement, sera manifesté par une perception de plus en plus grande, de plus en plus profonde, de plus en plus savoureuse aussi de toutes ces vérités qui sont le message du Christ, le message des apôtres. C'est dans la mesure où cette foi s'enracine en nous, devient, je dirais, plus sensible au cœur, au sens de Pascal. C'est dans cette mesure même que nous saurons que nous ne sommes pas, je dirais, stagnants dans notre foi, dans notre vie chrétienne, que nous progressons. Les auteurs spirituels souvent insistent sur ce fait qu'il faut se rendre compte de où on en est dans sa vie spirituelle, non pas pour en tirer vanité, non pas pour s'en enorgueillir, car tout cela est un don de Dieu, mais pour savoir si nous ne sommes pas endormis, si vraiment notre foi est vivante, s'il anime en nous une véritable vie spirituelle. Et nous pouvons nous interroger aussi sur ce point aujourd'hui. Est-ce que cette foi s'approfondit en nous? Est-ce que nous avons davantage de goût? Est-ce que nous éprouvons davantage la saveur spirituelle de tout ce message contenu dans l'Écriture sainte? Est-ce que les paroles de l'Écriture, quand nous les lisons, ne sont plus quelque chose que nous voyons comme de l'extérieur, mais est-ce que c'est quelque chose dont nous percevons la sève profonde, dont nous percevons tout le goût? Oui, c'est cela qui marque notre progrès dans le spirituel. Et si ce progrès n'existe pas, eh bien, il faut nous inquiéter. Il faut changer l'orientation de notre vie. Oui. Donc c'est tout cela que nous devons, sur quoi nous devons réfléchir en ce jour. Et sur le saint apôtre Thomas peut nous obtenir une grâce spéciale, particulière à aujourd'hui, une grâce de foi, une grâce pour que cette foi s'enracine toujours davantage en nous et porte davantage, toujours davantage, tous ses fruits par la puissance de l'Esprit Saint à la gloire du Père dans les siècles des siècles.